L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Et donc, nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcapitalisme, consacrée aujourd'hui à... avorter et accoucher autrement, de la démédicalisation à la reconfiguration des normes sociales, qui est un article de Mathieu Ascué et Marie Mathieu. Et donc, pour parler justement de l'avortement et de l'accouchement alternatif, on reçoit du coup Marie Mathieu, donc co-autrice de l'article, qui est sociologue et qui est autrice sur ce sujet d'une thèse qui s'appelle « Derrière l'avortement, les cadres sociaux de l'autonomie des femmes ». Refus de maternité, sexualité et vie des femmes sous contrôle. Donc bonjour Marie.
Bonjour.
Ce qu'on trouvait vraiment intéressant du coup dans ton article, c'était d'une part de penser l'avortement et l'accouchement ensemble, et puis d'autre part l'idée d'aborder la question des normes sociales qui entourent l'avortement et l'accouchement à travers les marges et à travers l'alternative, à travers ce qui... voilà ce qu'il y a de plus éloigné du contrôle patriarcal sur ces deux actes. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue l'idée de penser l'avortement et l'accouchement ensemble, et l'idée aussi d'examiner les normes sociales qui entourent ces deux actes par ces marges?
En fait, on s'est intéressé, nous, avec Mathieu, qui à l'époque, tout comme moi, était au stade du doctorat en sociologie et qui, lui, avait la double casquette puisque c'est un sage-femme homme. On a décidé de s'intéresser, effectivement, à l'accouchement et à l'avortement dans leur pratique, on va dire, moins ordinaire, pour essayer de voir un petit peu ce que révélait la réunion de ces deux objets. Ce qu'on voulait au travers de la réunion de l'avortement et de l'accouchement dans un même article, c'était réunir donc deux épisodes qui sont ordinaires dans la vie des femmes. Alors quand je dis ordinaire, c'est épidémiologiquement, ça veut dire qu'en termes de nombre, c'est des épisodes assez fréquents dans les trajectoires des femmes, dans le sens où oui, ça paraît évident aujourd'hui que l'accouchement est quelque chose de relativement fréquent chez les femmes, mais l'avortement en France, c'est une femme à peu près sur trois qui a au moins un avortement dans sa vie. Donc on voulait voir un petit peu comment étaient traités ces deux épisodes ordinaires de la vie des femmes, qui sont en fait des suites possibles d'un même processus biologique, c'est-à-dire d'une grossesse, pour voir un petit peu ce que révélait la réunion de leur traitement dans deux institutions. Donc pour l'avortement, c'était au Québec, c'était au Centre de santé des femmes de Montréal, et pour l'accouchement, c'était dans une maternité dite Belle Naissance, donc qui est un nom fictif pour désigner le lieu d'enquête de Mathieu. En fait, le lieu que moi j'ai investigué dans le cadre de ma thèse fait suite à un lieu qui s'appelait le Centre de santé des femmes du Québec, qui était initialement un lieu qui a été ouvert à une période où l'avortement était très peu accessible pour les femmes au Canada. Pour la faire rapide, jusqu'en 88, jusqu'à ce qu'on appelle l'arrêt Morgenthaler, les femmes avaient très peu accès à l'avortement et effectivement ont mis en place, on va dire, des réseaux pour diffuser de l'information sur les lieux permettant d'accéder à des avortements. Et aussi, le Centre de santé des femmes de Montréal fait suite à un endroit où on a pensé non seulement ce qu'on appelle le self-help, le développement d'une pratique d'autosanté, mais souhaitait initialement, dès sa première assemblée générale, ouvrir un service d'avortement. Le service d'avortement ouvre en novembre 1980 et met en place un service d'avortement, mais qui est pensé pour permettre aux femmes d'avoir une autonomie dans ce processus. Ça s'inscrit dans une mobilisation qui dénonçait notamment l'oppression des femmes et une période où effectivement il y avait une grosse remise en question de la société et du pouvoir, notamment médical, sur le corps des femmes. Donc, le Centre de santé des femmes de Montréal, en fait, met en place un service d'avortement qui veut répondre à ces 3D qui sont les principes de ce centre. Donc, les 3D, c'est déprofessionnaliser, démédicaliser, désexiser. Donc, on voit effectivement une pratique. Alors, la dire alternative à ce moment-là, c'est un petit peu compliqué puisque même s'il y avait des cliniques qu'on disait, les cliniques Lazure au Québec, elles fonctionnaient mal et les femmes avaient encore très peu accès à l'avortement. Mais effectivement, elle décide de mettre en place des services d'avortement par des femmes pour les femmes. Même si progressivement, ce centre va s'institutionnaliser, c'est-à-dire va bénéficier de financement et va être reconnu par l'État et par le gouvernement au niveau provincial, et qu'en plus, il va y avoir la reconnaissance de la gratuité des services d'avortement au sein même de ces espaces-là, on s'aperçoit que ça va amener à une modification des pratiques. La maternité Belle Naissance, c'est l'intégration d'une initiative portée avant tout par des personnes qui effectivement avaient des projets de naissance et qui étaient aussi portées par une équipe de sages-femmes au sein même d'une institution médicale, donc qui a développé un pôle physiologique. C'est pas du tout effectivement les mêmes conditions d'institutionnalisation, mais on voit effectivement que dans les deux cas, ça va avoir des effets sur ces pratiques entre guillemets alternatives d'accouchement et d'avortement. Alors, au Centre de santé des femmes de Montréal, donc que je connais un petit peu mieux, ce qui s'est passé, c'est que initialement, les pratiques étaient un petit peu décalées par rapport à ce qui se faisait au moment même, moi, de mes observations, courant année 2000-2010. Au moment où moi, je fais des observations, les entretiens des femmes se font de façon collective. Tout est pensé de manière à ce que les femmes fassent un choix le plus éclairé possible. Durant ces entretiens collectifs, notamment, les femmes sont amenées à discuter tant de cette grossesse non prévue, de leur sexualité, de la question de la contraception, dans toutes les formes possibles, et notamment sans une hiérarchisation des méthodes de contraception, médicales et non médicalisées. Et les femmes, en fait, remplissent elles-mêmes leur dossier de santé, sont amenées à calculer la durée de leur grossesse par elles-mêmes, avec certains repères qui leur sont fournis par des professionnels qui, elles-mêmes, peuvent mobiliser leurs propres expériences d'avortement durant cet échange. Donc, il y a vraiment des rapports beaucoup plus horizontaux que, on va dire, le rapport asymétrique et hiérarchique qu'il peut y avoir entre experts et profanes dans d'autres espaces. Il y a une tentative de donner le plus de marge de manœuvre aux femmes, ou du moins d'autonomie par rapport aux différentes étapes d'un avortement. C'est-à-dire que les femmes donc, faisaient un calcul de la durée de leur grossesse, faisaient elles-mêmes un test urinaire, faisaient elles-mêmes leur test rhésus pour savoir si possiblement elles seraient vaccinées pour des grossesses ultérieures. Donc elles se piquent elles-mêmes accompagnées d'une infirmière le doigt pour recueillir une petite goutte de sang et tester leur sang. Donc il y a vraiment cette idée où en amont, effectivement, on prépare les femmes et on leur propose d'examiner l'ensemble des choix qu'elles peuvent avoir, tant sur la manière dont se déroule l'avortement, la personne qui les accompagne, le mode de gestion de la douleur qu'elles veulent privilégier. Donc on voit effectivement qu'on leur donne une vision d'ensemble du processus avortement et on leur permet des choix qui, par exemple, des choix qu'en France on ne peut pas faire. En France, les avortements se font soit par anesthésie locale ou générale, quand ils sont faits par aspiration. Dans le Centre de santé des femmes de Montréal, à l'époque où les avortements médicamenteux n'étaient pas autorisés, puisque au Canada, c'est très récent, l'arrivée des avortements par médicament, les femmes, en fait, pouvaient choisir d'être médicamentées ou pas, le mode de médicamentation qu'elles décidaient de prendre pour effectivement gérer la douleur. Donc on voit que les femmes avaient une multiplicité de choix et qu'il y avait quand même une critique très forte de la médicalisation du corps des femmes, qui est une critique qui est peut-être un petit peu plus forte en Amérique du Nord sur l'idée effectivement du rapport qu'il peut y avoir entre les professionnels de soins sur certaines classes sociales, notamment la classe de sexe des femmes. Donc avec le temps, c'était un lieu militant qui progressivement a été reconnu par le Québec et notamment le gouvernement québécois. Et progressivement, il va y avoir une gratuité qui va advenir sur les avortements qui sont pratiqués dans ces espaces, comme dans l'ensemble des cliniques privées au Québec. Ça arrive suite à un recours collectif qui dénonce en fait le fait que l'accès à l'avortement est difficile dans les structures publiques et met en péril la santé des femmes au Québec. Donc, l'accès à l'avortement va être gratuit dans tous les espaces, cliniques privées, centres de santé des femmes de Montréal et aussi hôpitaux, CLSC, les centres, on va dire, de santé locaux, centres communautaires de santé. Et là, en fait, il va y avoir une modification de la fréquentation du centre de santé des femmes de Montréal pour les avortements, ce que ne connaissent pas, par exemple, les cliniques. Et en fait, elles vont avoir la difficulté à maintenir cette rencontre collective en amont des avortements, puisque les femmes, en fait, souhaitent de plus en plus faire en sorte que cet épisode soit le plus rapide possible, le plus court possible, et n'ont pas forcément envie de se confronter à d'autres personnes que simplement le professionnel de soins auquel elles font la demande. Donc, cette mise en concurrence, elle va amener effectivement à une modification des pratiques. Et puis, par ailleurs, va effectivement se développer une plus grande intégration de médicaments autrefois largement critiqués au sein du centre. Et on voit que les femmes veulent de moins en moins être confrontées à la douleur, que de plus en plus, elles ont recours à des médicaments pour gérer la douleur et les douleurs qui sont liées à l'avortement. Donc, toute la critique était faite sur la médicamentation du corps des femmes et la médicalisation du corps des femmes s'effrite progressivement. Et on voit aussi que, par exemple, sur la question de l'accouchement dans la maternité Belle Naissance que Mathieu a investigué, que l'intégration de ce pôle physiologique de ces pratiques alternatives au sein même d'une institution médicale amène à effectivement trouver des accommodements entre des pratiques un petit peu plus anciennes dans ces espaces de prise en charge de la santé des femmes et notamment de la grossesse et de l'accouchement qui étaient déjà plus fortement médicalisées. Donc cette institutionnalisation, quel que soit son fonctionnement, même si on peut la lire comme une forme de politisation par le bas, entre guillemets, amène aussi à une forme de déradicalisation de la critique qui était portée notamment par les féministes radicales en matière de santé des femmes.
Ce qui est intéressant dans ton article, c'est que tu montres que cette institutionnalisation, donc, elle opère une déradicalisation aussi dans le sens où finalement, d'une part la maternité et d'autre part le centre de santé vont avoir une trajectoire qui va les rapprocher de plus en plus de, entre guillemets, l'image socialement admise de ce que c'est qu'un avortement et de ce que c'est qu'un accouchement. C'est-à-dire que voilà, l'accouchement évidemment est valorisé dans la société patriarcale de manière générale, qui est voilà, une société nataliste qui accorde énormément d'importance à la maternité et la procréation, alors que l'avortement, même s'il est légalisé, demeure voilà, un épisode par lequel voilà, on autorise les femmes entre guillemets à passer dans leur vie, mais qui ne serait pas un épisode dont il faudrait se souvenir, à partir duquel il faudrait je sais pas, créer du sens, créer du collectif. Et voilà, tu montrais bien, par exemple, comment est-ce que, voilà, dans le centre de santé de Montréal, on s'éloignait toujours plus de l'idée de l'avortement comme un moment dont on pourrait éventuellement souvenir. Par exemple, on peut pas prendre de photos, les musiques sont neutres de manière à ce qu'on puisse pas garder un souvenir presque musical, alors qu'au contraire, dans le centre de Belle Naissance, tout est fait pour qu'on se souvienne de l'accouchement. C'est convivial parce qu'on peut ramener même plusieurs personnes à l'accouchement. Les chambres sont accueillantes, alors qu'à l'avortement, tout c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la question du choix des femmes qui reflète les attentes de la société. Donc, il faut un avortement rapide, dont on ne se souvient pas, etc. Mais finalement, les institutions elles-mêmes créent des conditions qui favorise le fait que l'accouchement va être un moment incroyable alors que l'avortement, un moment dont il faut se débarrasser le plus vite.
Alors, La réunion des deux terrains d'enquête qu'on a mené chacun de notre côté avec Mathieu montre bien en fait que même si on est dans des espaces dits alternatifs, alors qu'on a désigné alternatifs hein, pour être précis, on a une reconfiguration de ces normes sociales qui effectivement opposent accouchement et avortement. Comme tu l'as mentionné, la France comme le Québec sont des sociétés avec un passé fortement nataliste et l'accouchement est toujours perçu comme l'heureux événement alors que l'avortement se doit, entre guillemets, de rester un épisode exceptionnel. Il y a cette idée que l'avortement est un épisode exceptionnel, qui doit rester exceptionnel, qui est l'objet d'une forte stigmatisation. On est toujours dans cette opposition de la contraception et de l'avortement où la contraception serait les bonnes pratiques et l'avortement la mauvaise pratique. Donc l'avortement est toujours empreint d'un jugement moral, même s'il est accepté, ça doit être un épisode isolé dans la vie des femmes, comme on le voit notamment avec la surstigmatisation des femmes qui avortent plusieurs fois dans leur vie. Et en plus, ça doit être un épisode qui doit être pris en charge le plus tôt possible, puisqu'on a une aussi énorme stigmatisation des femmes qui avortent tardivement. Je pense que c'est aussi même si effectivement il y a eu une légalisation de l'avortement, il faut bien mentionner que il y a toujours en France un délai légal au-delà duquel on ne peut pas avorter en France et où les femmes sont contraintes de partir à l'étranger. Dans l'analyse de nos matériaux, on voit bien que même si effectivement les structures se disent alternatives ou sont pensées alternatives, on a toujours effectivement cette opposition qui transparaît et qui progressivement s'hypertrophie, c'est-à-dire que l'accouchement est de plus en plus valorisé, les femmes sont de plus en plus amenées à vivre cet heureux événement avec un investissement important, à maintenir des souvenirs, à construire des souvenirs autour de cet épisode, contrairement à l'avortement où effectivement les femmes, même si alors le Centre de santé des femmes de Montréal est une structure très spécifique, c'est-à-dire que contrairement à l'ensemble des structures qui prennent en charge l'avortement au Québec, elle propose aux femmes de voir le produit de la grossesse extrait. Cependant, les femmes ne peuvent pas conserver de souvenirs et sont généralement invitées à tourner la page un petit peu. Alors, on peut le penser, hein, que c'est pensé aussi en termes de bien-être et de santé des femmes, hein, santé psychique et physique, mais effectivement, ça donne une reconfiguration des normes qu'on voit dans les autres espaces, on va dire, plus traditionnels ou du moins plus médicalisés de l'accouchement et de l'avortement. Si effectivement, on démédicalise de plus en plus l'accouchement, on s'aperçoit que l'usage des technologies ou du moins des médicaments et la médicalisation s'étend progressivement du côté de l'avortement. C'est-à-dire, on a tendance à un peu repolitiser la question de l'accouchement, alors que on a tendance à dépolitiser progressivement celle de l'avortement. Quand même, il y a un petit, on va dire bémol, c'est que malgré tout, au Centre de santé des femmes de Montréal, les pratiques d'avortement sont généralement un fort entre-soi féminin qui demeure préservé et qui permet aussi une prise de conscience d'une appartenance à une classe de sexe, au travers notamment d'une conscience de la question du travail contraceptif qui est exigé des femmes, au travers de l'ensemble des questionnements qui s'imposent aux femmes dans leur quotidien, dont les hommes, bien qu'ayant des rapports hétérosexuels avec ses partenaires, sont pour partie, on va dire, délestés. Et de l'autre côté, la question de l'enfantement est quant à lui plus un espace où se regroupe on va dire une famille, donc on évoque un petit peu un processus de familisation de l'enfantement versus une féminisation de l'avortement, qui cependant, féminisation qui est mise à mal un petit peu par les évolutions récentes.
Oui, et du coup, ça invite aussi à considérer quand même avec prudence la question de la politisation de l'accouchement, puisque on voit bien en quoi est-ce que finalement cette politisation, elle n'est pas nécessairement subversive par rapport à l'ordre patriarcal, alors que la politisation de l'avortement et sa prise en charge collective en non-mixité, par exemple par les MLAC en France dans les années 70 et jusqu'en 1984, c'est-à-dire y compris jusqu'après la loi Veil, l'a posée en une prise en charge subversive de l'avortement, collective, joyeuse, militante et même extra-institutionnelle. Et du coup, ça m'invite à te poser la question qui est un peu l'ouverture de l'article. C'est dans quelle mesure le surinvestissement symbolique, temporel et physique que les femmes sont censées accorder à la question de l'enfantement, qui devrait être plus naturel, plus artisanal, plus physiologique, ils participent d'un désengagement collectif de la question du contrôle des naissances, parce que finalement, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une espèce d'inversion par rapport aux années 70, qui sont quand même une décennie de mouvements féministes tels qu'on n'a probablement plus connus jusqu'à aujourd'hui, et où la politisation était portée sur l'avortement, était prise en charge collectivement, de manière extra-institutionnelle, dans les MLAC notamment, alors que, au contraire, la question de l'accouchement semblait être une question peut-être moins importante. En quoi est-ce que finalement la mise en parallèle de l'avortement et de l'accouchement dans des institutions alternatives révèle aussi quelque chose d'une dynamique plus générale du patriarcat et du contrôle social et des normes sociales qui encadrent le travail procréatif des femmes.
La question qu'on se posait avec Mathieu, c'était effectivement comment effectivement s'articuler les deux. Après, historiquement, si on a un souvenir important des mobilisations pour le droit à l'avortement et il y a une revalorisation de l'histoire des MLAC actuellement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi une mobilisation qui concernait notamment les conditions d'accouchement. Notamment, il y a eu une grosse valorisation à une période de l'accouchement sans douleur avec la méthode Lamaze. Il y a eu énormément de questionnements qui ont été faits là-dessus. Et dans les MLAC, parmi les MLAC, donc ça, je vous dirige vers la thèse de Lucille Ruaud, il y avait notamment le MLAC de Lyon qui effectivement portait en son nom à la fois l'avortement et l'accouchement. Donc le questionnement que nous on avait avec Mathieu, c'est est-ce que finalement il n'y a pas eu une dissociation de ces deux épisodes, dissociation forte qui effectivement amène à un investissement important pour quelque chose qui symboliquement est toujours associé à l'heureux événement. L'article maintenant date un petit peu, mais en fait entre temps il y a eu aussi tout le questionnement sur les violences gynécologiques obstétricales, où il y a eu quand même aussi un questionnement à porter du fait que les femmes vivaient aussi cet heureux événement comme quelque chose de traumatisant pour certaines et même pour nombreuses. Et de l'autre côté, cette idée un petit peu de l'avortement serait entre guillemets une question réglée, notamment en France, on le voit un petit peu, il y a cette idée que comme il y a une loi, il n'y a plus de problème sur l'avortement. Sauf que ce que montrent les enquêtes récemment, c'est qu'il y a quand même toujours et encore des problèmes d'accès. Il y a encore toujours et encore des problèmes d'accès pour certaines femmes qui dépassent le délai légal. En période d'épidémie, on peut se poser la question dans quelle mesure les femmes qui ont une grossesse avancée peuvent-elles avoir accès à des soins de santé dans un autre pays européen, puis qui pose vraiment ces questionnements-là de derrière ce problème qu'on pense régler, quelles sont les réalités derrière, et dans quelle mesure l'avortement médicamenteux a-t-il eu un effet sur la perception de cette question de l'avortement, dans le sens où on a vu en France une montée très importante du nombre d'avortements par médicament qui tend à être présenté en premier choix dans une grossesse peu avancée, mais qui amène aussi à une invisibilisation, du moins dans les structures hospitalières et plus largement dans le social, de la question de l'avortement. Donc, on s'est posé la question dans quelle mesure, là, en étudiant ces deux séquences de travail procréatif ensemble, avortement, accouchement dans deux contextes différents et dans deux structures dites alternatives, dans quelle mesure, effectivement, ces pratiques alternatives pouvaient demeurer ou pas selon la séquence qu'elle traitait. Donc, ça amène vraiment un questionnement très large sur la façon dont s'articule le traitement des différentes séquences du travail procréatif. Notamment, on aurait pu aussi prendre l'exemple de la fausse couche, dans quelle mesure, finalement, cette survalorisation de la maternité et cette surinvestissement de la grossesse et de l'enfantement, qui sont aussi liés au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins d'enfants qu'avant, que c'est des grossesses qui, même quand elles sont non prévues, sont des grossesses qui sont choisies, comment ça s'articule avec la déclaration des fausses couches? Est-ce que les femmes parlent moins souvent de leur fausse couche? Est-ce qu'elles le dissimulent? Alors qu'on sait qu'aussi, tout comme l'avortement, c'est un épisode relativement ordinaire dans les trajectoires reproductives, procréatives des femmes.
Oui, on voit tout l'intérêt du coup de penser conjointement tous ces épisodes fréquents dans la vie procréative des femmes. Et on voit que tu as bien fait de rappeler effectivement que les MLAC pensaient ces questions-là ensemble, alors que, puisque tu évoquais la question de l'accouchement sans douleur, Là, la question était complètement séparée, puisque voilà, on sait que c'est une méthode qui avait été inventée en Union soviétique, où en même temps, on avait interdit l'avortement à partir de 1936. Donc, on voit que finalement, le problème à penser uniquement la politisation ou la réappropriation ou un accouchement alternatif, en lui-même, il n'est pas nécessairement émancipateur, puisque peut-être que contrairement à la politisation de l'avortement, il n'a pas en soi une charge totalement subversive par rapport à ce qu'on attend des femmes dans la société patriarcale, c'est-à-dire qu'elles fassent des enfants. Alors certes, effectivement, la démédicalisation, c'est une forme d'empowerment, puisque évidemment, voilà, les femmes sont plus actives entre guillemets, dans l'accouchement, c'était déjà un petit peu le cas de l'accouchement sans douleur, il y avait déjà une forme d'empowerment, mais bon, malgré tout, non, il n'en reste pas moins que, entre guillemets, dans le cadre de la société patriarcale, cette forme d'empowerment peut être tolérée, voire dans une certaine mesure encouragée, surtout pour certaines parties de la population, alors que la question de la politisation de l'avortement reste d'une certaine manière un tabou, et c'est là l'intérêt de, voilà, de tes travaux sur la question de l'avortement, dont on parlera plus dans l'autre émission, mais de montrer comment est-ce que voilà, la question de l'avortement garde finalement sa charge subversive qu'il avait dans les années 1970, et qu'en ça il diffère quand même de l'accouchement.
Alors, sur la question de la dimension subversive de l'accouchement, on va dire, dit alternatif, ou de l'avortement de manière générale, mais dans aussi des pratiques dites alternatives, je pense qu'il y a en fait différents éléments, notamment la question de la critique de la médicalisation du corps des femmes, qui est effectivement peut-être un élément qui participe aussi d'un empowerment des femmes. Je trouve que la dichotomie que tu as faite est un petit peu rapide, dans le sens où je pense que l'avortement comme l'accouchement peuvent être un espace d'autonomisation, comme ça peut être un lieu, effectivement, de restriction forte. En fait, si on pense, notamment, on peut revenir sur l'avortement, par exemple, en Russie, mais enfin, il y a les travaux de Mona Claro, notamment, qui le montrent, hein, l'évolution de la perception de l'avortement au cours du temps, pour des femmes de différentes générations, montre bien que selon, effectivement, les dispositions légales, selon les restrictions en vigueur, on n'aura pas les mêmes perceptions. L'avortement, la dimension subversive, elle était effectivement très présente dans les années 70-80, effectivement, quand il y avait une revendication de la loi. La question, effectivement, d'une revendication autour de l'avortement, c'est quand même relativement aplani, on va dire, puisqu'il y a eu progressivement des dispositions légales qui ont amené à un assouplissement des lois permettant aux femmes d'avoir plus d'autonomie par rapport à leur vie et aux choix qu'elles ont en matière de procréation. Cependant, on peut très bien penser que si les femmes n'avaient pas accès à certaines méthodes de contraception, l'avortement serait plus perçu comme quelque chose de subversif, en fait. Ce serait toujours une pratique, mais qui aurait aussi une forme de limite. La différence avec l'avortement, c'est qu'effectivement, c'est un choix d'un refus de maternité, et c'est ce refus de maternité, entre guillemets, qui était plus ou moins revendiqué par les féministes matérialistes sur cette idée qu'il fallait s'émanciper du travail domestique, et travail domestique fortement aussi lié à l'enfantement, à l'élevage des enfants, mais que dans la question de l'avortement, c'est pas aussi simple, en fait, que oui, effectivement, l'avortement et ce refus de maternité et cette déconstruction du féminisme maternel qui est bien souvent essentialisé. Pour certaines autrices, je pense notamment aux travaux de Francine Descarrie qui a fait une typologie au Québec sur le féminisme et les courants qui traversent effectivement le mouvement des femmes, qu'elle appelle le féminisme dit de la féminilité, qui vont essayer de trouver une forme d'empowerment dans cet accouchement physiologique, c'est-à-dire qu'elles se disent que si elles ont, enfin, du moins que cet événement-là de leur vie leur a permis de prendre conscience de leur pouvoir et de leur force, leur permettant possiblement de se mobiliser différemment. Donc je pense qu'il ne faut pas tout de suite réduire la question de l'accouchement physiologique comme quelque chose d'absolument non subversif versus l'avortement qui aurait une potentialité subversive. Je pense que c'est tout le questionnement autour de la maternité qui n'est absolument pas résolu, où les grilles d'analyse ont tendance à soit effectivement présenter la maternité comme maternité esclave, cette idée effectivement que la maternité enfermerait les femmes dans un rôle auquel la société les a fortement amenées et auquel elles ont été largement socialisées, versus une maternité qui serait un lieu d'épanouissement fort et entier. Je pense que les expériences sont beaucoup plus contradictoires, qui montrent vraiment qu'au-delà de juste dire que le refus de maternité serait le seul moyen, entre guillemets, de sortir du patriarcat, je pense qu'il y a d'autres leviers qui demeurent à penser et qui doivent tenir aussi compte, entre guillemets, de la nuance qui est entre ces deux pôles-là, en fait, du continuum d'expériences qui ne peuvent être réduites ni à un pôle ni à l'autre.
Oui, il ne s'agissait pas non plus, évidemment, d'opposer complètement les deux, mais simplement de dire que, finalement, notre société, et notamment dans les classes moyennes et supérieures, accepter beaucoup plus facilement l'idée d'une démédicalisation, d'une collectivisation de l'accouchement que une démédicalisation et une collectivisation, voire une extra-institutionnalisation, désinstitutionnalisation de l'avortement.
Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai dans la mesure où en France, c'est très difficile d'accoucher chez soi. Il y a très peu de maisons de naissance, etc. Donc effectivement, il y a une valorisation de la démédicalisation de l'accouchement quand il reste dans les confins de l'hôpital, j'ai l'impression, mais que finalement, hors de ces limites-là, il y a quand même des difficultés matérielles.
Alors, je pense que c'est ce sur quoi on a beaucoup échangé avec Mathieu, hein, cette idée que l'intégration de la critique au sein même des institutions médicales qui traitaient, par exemple, enfin, qui prenaient en charge les femmes enceintes et l'accouchement, amenait notamment à aussi une intégration de la critique et faisait que son pôle le plus extrême, c'est-à-dire l'accouchement à domicile, en était d'autant plus affaibli. Il y a plein d'éléments qui aussi sont à prendre en compte, hein, la question des assurances, la question... Mais en fait, le pôle physiologique qui est développé dans la maternité Belle Naissance, c'est pas, par exemple, une maison de naissance comme on aurait, par exemple, au Québec. C'est une structure qui est au sein même d'une structure hospitalière, comme on le voit, par exemple, avec d'autres initiatives qui sont nées en France, hein, comme à la maison, par exemple, cette structure qui est rattachée à un hôpital et qui a été parmi celles qui ont initié cette critique de la médicalisation des accouchements à bas risque, en fait. En fait, je pense que ça a amené effectivement à intégrer la critique et une certaine dépolitisation de la question. Sur la question de l'avortement, en fait, il y a une espèce d'ambivalence dans les interprétations qu'on peut faire de son évolution. Est-ce que, par exemple, la médicamentation et la possibilité des femmes de pouvoir avorter chez elles avec la prise de médicaments est une démédicalisation, dans la mesure où, effectivement, les femmes, en fait, ne sont plus soumises de rester patiemment dans une institution médicale sous le regard de professionnels de soins et peuvent avorter chez elles? Ou est-ce que c'est une extension du médical via le médicament dans un espace qui autrefois n'était pas pensé comme un lieu de la médicalisation, dans le sens où même si historiquement les avortements se faisaient dans les cuisines et dans les salons, notamment à l'époque où effectivement il y a eu la diffusion de la méthode par respiration et notamment avec les MLAC, hein, c'était pas pensé avec le recours à un médicament en tant que tel, ou c'était pas pensé, c'était justement une initiative de sortir du pouvoir du médical, sauf que les médicaments pour avorter aujourd'hui sont obtenus auprès de professionnels de soins. Même si progressivement on voit que les sages-femmes maintenant sont autorisées à donner les médicaments abortifs, ça demeure régulé. Alors que finalement les MLAC justement revendiquaient le fait que ce soit notamment des personnes non médecins qui pratiquent des avortements par respiration dans un entre-soi de femmes et de manière collective.
Je me demandais s'il y avait une différence en termes de classe et de race des parturientes et des personnes et des avortantes dans les lieux entre guillemets alternatifs d'accouchement et d'avortement.
Je pense que c'est effectivement des classes un petit peu plus aisées qui se tournent vers des projets alternatifs en matière d'accouchement. Pour la question de l'avortement, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où c'est plus en fonction des places, parce que les femmes veulent accéder le plus rapidement possible généralement à un rendez-vous pour pouvoir avoir un avortement. Donc ça se négocie pas de la même manière, c'est beaucoup moins anticipé. Donc il y a une plus grande diversité sur l'accueil, par exemple, en centre de santé des femmes pour les avortements que, par exemple, sur des pôles plus physiologiques pour l'accouchement.
Oui, et par rapport à cette dimension de classe, il y a également quelque chose dont tu parles dans ta conclusion, que finalement, l'accouchement moins médicalisé au sein de l'hôpital, donc d'une part, effectivement, il participe de la délégitimation poursuivie de l'accouchement à domicile, mais aussi qui s'insère dans les logiques néolibérales, qui fait que voilà, ça rapporte aux hôpitaux de proposer ce type d'accouchement, et que dans ce cadre-là, ça apparaît effectivement comme non seulement plus dans l'ordre patriarcal peut-être que les MLAC des années 70, mais en plus compatible peut-être avec les logiques capitalistes.
Alors, je pense que ce que Mathieu essaie de mentionner en disant que les maternités ont décidé effectivement de faire des pôles physiologiques aussi parce qu'elles avaient un intérêt, c'est-à-dire que le physiologique, ça séduit et entre guillemets, ça rapporte. Un petit peu comme le bio, ça séduit et ça rapporte. Il y a cette idée d'une intégration, d'une contestation sociale, mais qui va aussi dans le sens des attentes du moment, d'une période donnée en matière d'accouchement chez certaines classes sociales. Il y a aussi des intérêts, on va dire, en termes de lits, en termes de remplissage de services, de reconduction de financement pour certains services. L'accouchement physiologique attirant de plus en plus de personnes, effectivement, les maternités ont tout intérêt à en développer au sein même de leur... Mais en fait, c'est assez marrant parce que si vous regardez, par exemple, les travaux de Chiara Quagliarello, vous verrez par exemple que des initiatives d'accouchement physiologique, notamment dans certaines maternités ayant été à la pointe, on va dire, des pratiques dites alternatives, en fait, ça peut avoir aussi d'autres effets. Elle s'intéresse notamment à la façon dont en fait, il y a un ciblage un petit peu plus des femmes racisées, notamment d'origine sénégalaise, dans ces structures-là, avec une représentation qu'elles auraient plus l'habitude de cette forme d'accouchement et que par nature, elles seraient plus douées pour, et des bonnes cibles pour maintenir ces pôles physiologiques très actifs. Je pense que c'est important de se poser la question de qui va se tourner vers ces structures-là. En l'occurrence, dans la maternité enquêtée par Mathieu, c'était à l'époque plus, on va dire, des classes moyennes, voire aisées.
C'est intéressant parce que ce que tu dis, me pensais aux travaux de Priscille Sauvegrain sur la santé reproductive des patientes et parturientes noires par le personnel hospitalier. Elle met en relation la racisation des parturientes et des patientes par le personnel hospitalier et le nombre de, notamment, césariennes.
Mais ça montre vraiment, enfin, je trouve que ces travaux sont très intéressants parce qu'ils montrent la totale contradiction qu'il y a dans ces représentations. On le retrouve dans les travaux d'Estelle Card sur la Guyane, sur ce serait des femmes qui auraient un bassin plus large ou qui auraient une plus grande tolérance à la douleur. Tous ces clichés-là, entre guillemets, qui sont associés aux femmes racisées. Et d'un autre côté, on voit que c'est des femmes qui sont l'objet d'énormément d'interventions et notamment la césarienne. Donc on voit toute la contradiction qu'il y a autour de ces catégories-là, mais qui peuvent se rejouer aussi avec des combinaisons, on va dire, plus nuancées. Et ce serait intéressant de voir un petit peu plus en profondeur, la manière dont les professionnels agissent, notamment selon les classes sociales. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'interventions sur le corps des femmes? Est-ce que l'information qui est donnée est plus importante, moins importante? Est-ce qu'il y a un recours plus important ou moins important au mensonge, dans un sens comme dans l'autre? Enfin, est-ce que, par exemple, les patientes sont plus amenées à mentir quand elles font quelque chose de pas bien et qu'elles sont en situation de grossesse parce qu'effectivement, il y a une plus grande distance sociale et qu'elles ont peur d'être jugées? Versus, est-ce que les professionnels de soins donnent la même information éclairée aux femmes enceintes, aux parturientes, des milieux les plus populaires?
On pourrait presque analyser le rapport à la douleur en contrastant un petit peu les classes, les femmes majoritairement blanches des classes moyennes et supérieures qui vont à la maternité alternative et les femmes noires, puisque dans les deux cas, il y a effectivement une expérience peut-être de la douleur qui peut être relativement similaire, puisque du coup, c'est des femmes qui vont avoir moins recours à des médicaments antidouleurs. Mais dans un cas, c'est une contrainte du fait de la racialisation, alors que dans l'autre cas, un choix qui apparaît peut-être dans un horizon plus large comme une forme de distinction sociale, même si évidemment il ne s'agit pas de l'y réduire.
Ouais, puis je vous renvoie par exemple sur ce questionnement-là, dans quelle mesure une même action peut être vécue comme un choix ou comme quelque chose de subi. Hein. On le voit par exemple sur les travaux de Julie Landour sur les mumpreneurs, ces femmes qui décident d'hyper-investir leur maternité et qui développent une entreprise en lien avec cette maternité. On voit que c'est des femmes qui choisissent effectivement cet investissement temporel, matériel, enfin, puis d'un autre côté, qui se retirent pour partie du marché du travail, versus par exemple des femmes qui sont en temps partiel parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir un système de garde. Et ça se reconfigure à chaque séquence du travail procréatif, même si ce n'est pas des séquences qui s'enchaînent obligatoirement. Il n'y a pas un lien naturel de cause à effet, ce n'est pas parce qu'on tombe enceinte qu'effectivement on élève des enfants ou qu'on les éduque. Mais par contre, on voit qu'effectivement à chaque séquence se reproduisent effectivement des lectures différenciées effectivement, d'un même acte, portée par des classes sociales différentes.
Oui, ben c'est une bonne conclusion, effectivement, que voilà, il faut donc non seulement analyser l'avortement et l'accouchement en commun, à partir des marges, mais aussi dans une perspective intersectionnelle qui prend en compte les questions de classe et de race. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir plus longuement dans l'émission avec Lucille Ruot. Et toi, du coup, sur la question du travail procréatif en général, on invite du coup les auditeurs et les auditrices qui voudront savoir plus du coup à lire l'article dont il a été question dans cette émission. Et du coup, on te remercie vivement de nous avoir parlé de tes travaux dans cette émission.
Merci à toutes deux.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie.